France Culture.
Le journal vous est présenté par Juliette Pietraszewski.
Bonjour, bonjour à tous. À la une de ce journal, jour de vote en Allemagne pour les législatives, une élection où la CDU semble bien placée dans les sondages. L'AFD, le parti d'extrême droite, pourrait aussi effectuer une percée historique. Reportage à Berlin dans un instant. Au Liban, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Beyrouth pour les funérailles d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, tué en septembre dernier dans une frappe israélienne. Les détails dans ce journal. À suivre aussi le dossier ukrainien au cœur des préoccupations européennes. Emmanuel Macron s'envolera pour Washington demain pour parler au nom d'une Europe en faveur d'un soutien à Kiev. Un discours bien loin de celui du Premier ministre hongrois Viktor Orban. En France, au lendemain de l'attaque terroriste à Mulhouse, 4 personnes sont en garde à vue. Le suspect principal est né en Algérie et en situation irrégulière en France. Et puis notre invité sera Martine Drozze, géographe et urbaniste. Alors que le dernier Macumba de France ferme ses portes, on s'intéressera au symbole de la modernité des Trente Glorieuses. En Allemagne, les citoyens sont appelés aux urnes pour des élections législatives depuis ce matin. La campagne a été notamment bousculée par le retour au pouvoir de Donald Trump et dominée par l'essor de l'extrême droite, sur fond de récession économique et de menaces de guerre commerciale avec Washington. Le conservateur Friedrich Merz et son parti, la CDU, est largement en tête dans les sondages avec 30% d'intention de vote. La formation d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AFD, devrait aussi obtenir un résultat historique. Selon les sondages, l'ère du social-démocrate Olaf Scholz serait sur le point de se terminer. Notre correspondant Sébastien Baer s'est rendu dans un bureau de vote ce matin dans l'Université technique de Berlin.
Au rez-de-chaussée, 3 salles de classe de cette université ont été transformées en bureau de vote. On a rangé dans un coin les tables et les chaises pour installer les isoloirs. Myriam, 49 ans, sort du bureau 807.
Je vote toujours, mais aujourd'hui c'est particulièrement important parce qu'on a en Europe, dans le monde et ici en Allemagne, une tendance populiste et d'extrême droite qui m'inquiète. C'est pour ça qu'il est primordial que beaucoup de gens aient voté.
2 thèmes auront dominé la campagne, la relance de l'économie et l'immigration, ce qui frustre Wiebke, une avocate berlinoise.
Pour moi, ce n'est pas l'immigration le plus gros problème, mais plutôt la justice sociale, le logement et le climat. Des sujets qui ne sont pas du tout abordés par de nombreux partis et qui ne sont pas des priorités. Et donc ça complique le choix.
8 candidats sont en lice dans cette 79e circonscription. La CDU, le SPD, l'AFD, les Verts, le FDP, tous les principaux partis sont représentés. Andreas, qui travaille dans le marketing, a voté pour les conservateurs pour faire barrage au chancelier Olaf Scholz.
Tout est bloqué, on ne sait plus comment avancer. Le gouvernement a été incapable de résoudre les questions importantes. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. On a vraiment besoin d'une nouvelle politique avec de nouvelles idées.
Premières estimations, première tendance, dès la fermeture des bureaux à 18h. Si les sondages ne se sont pas trompés, le prochain chancelier s'appellera Friedrich Merz.
Correspondance à Berlin de Sébastien Baer. Au Proche-Orient, après le retour de 6 otages israéliens par le Hamas hier, Israël a donc retardé la libération de prisonniers palestiniens. Leur libération prévue samedi sera reportée jusqu'à ce que le Hamas cesse d'organiser des cérémonies humiliantes de libération de ces otages, précise le bureau du Premier ministre israélien. De son côté, le Hamas a condamné cette décision qui reflète, selon lui, la volonté délibérée du gouvernement de Benjamin Netanyahou de saper l'accord de cesser le feu, une trêve en vigueur depuis le 19 janvier. Toujours dans la région, des frappes israéliennes ont visé le sud du Liban ce matin, selon l'Agence nationale d'information. Des frappes peu de temps avant le début des funérailles du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth. Ce dernier a été tué le 27 septembre dernier dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale, bastion de la milice chiite pro-iranienne. Des dizaines de milliers de partisans du Hezbollah ont convergé vers la cité sportive de Beyrouth pour participer aux funérailles. Nathanaël Charbonnier.
Il fait froid ce matin au Liban, mais cela n'a pas empêché des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de prendre place dans les gradins de la cité sportive à la périphérie sud de Beyrouth. Les images, comme souvent dans ce genre de moments, sont impressionnantes. La majeure partie des personnes présentes sont habillées en noir. Des femmes pleurent en brandissant des portraits de combattants tués lors de la guerre. Il y a également les drapeaux du Hezbollah jaune et vert qui flottent au-dessus de la foule, auxquels s'ajoutent d'immenses portraits d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah pendant 32 ans, qui a été tué le 27 septembre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale. Son successeur lui a rendu hommage en le qualifiant de héros et en affirmant que le chemin de la résistance va continuer. On peut ajouter qu'au Liban, la journée fait partie de celles qui se figent et qui paralysent le pays. Avec une sécurité plus que renforcée, les autorités libanaises ont mobilisé 4000 soldats, tandis que 25 000 hommes du Hezbollah assurent la sécurité à l'intérieur du stade. Impossible d'approcher sans être fouillé. Il faut dire qu'outre la tension qui règne pour l'événement, sont présentes différentes personnalités régionales. L'Iran est également représenté avec le président du Parlement iranien.
Nathanaël Charbonnier. En cette veille du troisième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, la Russie a lancé dans la nuit plus de 260 drones contre l'Ukraine, un record depuis l'invasion russe du 24 février 2022 selon l'armée de l'air ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky appelle ce dimanche à l'unité des États-Unis et de l'Europe en vue d'une paix durable dans un contexte incertain sur la suite du conflit. Les Européens sont préoccupés par ce sujet. Le président français Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'envoler demain pour rencontrer Donald Trump à Washington. Il souhaite parler au nom d'une Europe unie et déterminée à ne pas laisser tomber l'Ukraine. Sauf qu'un Européen fait entendre sa voix discordante. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. L'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, c'est clair. À l'adhésion de Kiev à l'Union Européenne, la Hongrie dit non, a déclaré Viktor Orban hier. Il a annoncé aussi une offensive contre les associations qui luttent pour les droits humains. Il les accuse d'être au service d'intérêts étrangers. À Budapest, Florence Labrouillère.
Encouragé par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Viktor Orban veut lui aussi donner un coup de balai. Il annonce une chasse aux sorcières contre les ONG hongroises qui ont reçu des dons de l'étranger, et notamment de l'agence américaine USAID, tout juste décapitée par Elon Musk. En Hongrie, il est tout à fait légal de recevoir des financements de l'étranger, y compris de la Commission européenne. Mais pour Viktor Orban, ces associations sont des marionnettes manipulées par un empire étranger. Qui est cet ennemi? Viktor Orban fait allusion à Bruxelles et à George Soros, le philanthrope américain d'origine juive. En réalité, la fondation Soros s'est retirée de Hongrie, mais Orban continue à la brandir comme un épouvantail. Une soixantaine d'ONG hongroises qui s'occupent d'éducation ou de droits humains sont dans le collimateur. Viktor Orban menace clairement l'une d'entre elles, qui organise chaque année la Marche des Fiertés. « Je vous conseille de ne pas vous donner la peine d'organiser cet événement. Ce serait une perte de temps et d'argent », assène Viktor Orban, très applaudi par ses fidèles.
Florence Labruyère. En France, Mulhouse s'est réveillée sous le choc ce matin après un attentat hier après-midi. L'assaillant a tué un passant avant d'être poursuivi par des policiers municipaux. Deux d'entre eux ont été grièvement blessés, cinq autres plus légèrement. Un acte de terrorisme a déclaré hier dans la foulée Emmanuel Macron. William Delesseux, vous êtes à proximité des lieux de l'attentat à Mulhouse. Quatre gardes à vue sont en cours dans l'enquête.
Effectivement, l'enquête du parquet national antiterroriste se précise entre Paris et ici à Mulhouse. L'assaillant, le ressortissant algérien de 37 ans, s'appelle Brahim A. C'est l'identité qui vient d'être donnée par le parquet. Il peut être retenu, interrogé durant 96 heures de garde à vue, voire 144 heures, 6 jours à partir du moment de son interpellation hier par les policiers municipaux, comme c'est le cas dans les affaires de terrorisme. Trois autres suspects sont également retenus par les enquêteurs en garde à vue. Il s'agit de deux personnes membres de l'entourage de l'assaillant, puis de son hébergeur potentiel. Deux axes dans cette enquête. L'un sur la radicalisation avérée du suspect. Il était fiché pour cela et a crié « Allah Akbar » au moment de l'assaut qui a fait un mort et sept blessés. Deuxième axe, le volet psychiatrique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a évoqué un profil schizophrène. Actuellement, en place du marché du canal, dans la ville du Haut-Rhin, ruban police entoure l'esplanade qui, hier, à la même heure, accueillait encore les étals. Un quartier bien vide ce matin, comme sonné. Sabrina et Claude sont deux habitants. Ils sont venus voir la devanture jaune du marché couvert.
Pour se recueillir, rendre un petit hommage aux victimes. Et c'est aussi un lieu où on a l'habitude, nous, personnellement, de venir faire nos courses. Et c'est vrai qu'on a été choqués.
Oui, voilà. À quelques heures près, ça aurait pu être notre tour. Et puis voilà.
Certes, la billette va continuer. Mais j'avoue quand même que maintenant, quand je vais venir ici, je vais quand même avoir cet événement un peu dans un coin de ma tête et quand même avoir une certaine peur. Peut-être être plus attentive à l'environnement autour de moi.
Moi non, pas du tout, parce que sinon les terroristes auront gagné.
Et vous dire qu'un rassemblement de recueillement est prévu par la mairie de Mulhouse qui a également appelé au calme.
Les précisions de William Delesseux à proximité des lieux de l'attentat à Mulhouse. Merci à Jérémy Thuil pour les moyens techniques. À noter qu'un conseil interministériel aura lieu mercredi consacré au contrôle de l'immigration. Il était prévu avant l'attaque de Mulhouse. Dans l'actualité française également, 10 nouvelles interpellations ont eu lieu hier soir après l'arrestation de Mohamed Amra en Roumanie hier matin. Toutes ces personnes sont soupçonnées d'avoir aidé le narcotrafiquant à s'échapper ou d'avoir aidé à la préparation de sa fuite. Ces événements interviennent plus de 9 mois après son évasion ultra-violente lors d'un transfert de prison. 2 agents de l'administration pénitentiaire avaient été tués. Au-delà de cette actualité difficile, nous allons terminer sur une note plus légère et s'intéresser notamment à notre urbanisme. Hier soir, c'était la dernière soirée du dernier Macumba de France à Anglo, dans le Nord. Une fermeture très médiatisée qui peut symboliser la fin d'une époque. Sur France Culture, on s'interroge sur les symboles de la modernité des 30 Glorieuses qui sont aujourd'hui tombées en désuétude. Pour en parler avec nous, Martine Drozeux est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et urbaniste, chercheuse associée au laboratoire technique Territoire et Société. Alors pour commencer, madame, le Macumba, c'est le signe de quoi ?
Alors, le Macumba, c'est déjà une des premières notices, un des premiers chapitres qu'on avait écrit dans ce livre qui s'appelle « Nos lieux communs » et à travers lequel on avait envie de raconter notamment la modernisation de la France à travers ces lieux. On avait envie de raconter un peu l'histoire contemporaine des Trente Glorieuses, mais en évoquant les lieux qui sont emblématiques de ces transformations du territoire français. Et donc, on cherchait un endroit qui puisse parler à beaucoup de monde, dont tout le monde a entendu parler, mais dont on connaît pas forcément l'histoire. Et la première idée qu'on a eue, eh bien, ça a été de traiter des Macumba sans anticiper évidemment l'actualité de ce début d'année et de la fermeture donc de ce dernier Macumba à Anglo en banlieue de Lille. Alors le Macumba c'est l'incarnation très concrète d'un urbanisme des années 70 où la croissance est un peu l'horizon des projets et où la franchise est le signe de succès. Donc l'histoire est connue, le Macumba c'est un succès commercial dès son ouverture. Le premier Macumba ouvre en banlieue de Bordeaux, à Mérignac, et ensuite il y en aura jusqu'à 23 dans différentes villes régionales, dans différentes régions françaises. Alors c'est un équipement qui vient animer la nuit périurbaine, à un moment où la France en fait se transforme, il y a des nouveaux quartiers qui se construisent le long des autoroutes, le long des axes routiers, les zones commerciales, et à Anglo, le Macumba se situe au milieu de la zone commerciale.
Alors aujourd'hui, donc, c'est oui. Effectivement le Macumba hein, qui est dans l'actualité, mais dans vos études, vous regardez ça de près, c'est pas le seul lieu qui souligne un peu notre rapport ambivalent aux Trente Glorieuses.
Non, tout à fait. Et la raison pour laquelle le Macumba, c'est un symbole des Trente Glorieuses, c'est aussi parce que ça exprime un changement d'échelle. Et c'est à la fois l'expression du changement d'échelle, mais c'est aussi une victime de ce changement d'échelle. Donc je m'explique, quand le Macumba ouvre à Mérignac en 73, à Anglo en 75, il n'y a pas de concurrent en fait. Donc il n'y a pas d'autres lieux où on peut faire la fête à cette échelle. C'est vraiment une nouveauté. Et les autres lieux de divertissement qu'on connaît, les salles de concert comme les Zénith par exemple, ou les multiplexes pour les cinémas, vont ouvrir bien plus tard, dans les années 80. Donc quand le Macumba ouvre, il n'a pas de concurrent. Aujourd'hui, 50 ans après, la géographie et l'offre de lieux pour le divertissement, elle s'est considérablement étoffée. Et finalement, les discothèques, plus généralement, on a perdu la moitié des discothèques depuis les années 80. C'est aussi le signe qu'il y a qu'on fait la fête dans d'autres endroits et à d'autres échelles. Et donc c'est les clubs géants qu'on peut trouver dans d'autres villes européennes ou alors les salles de concert géantes, ces fameux concerts de 100 000 personnes que chantait Daniel Balavoine. Et donc dans les autres lieux qui sont un peu emblématiques ou exemplaires
vous
de
avez
ces transformations,
des exemples
on peut trouver par exemple le centre commercial évidemment, mais aussi le parc d'attractions, donc j'ai évoqué les cinémas, les entrepôts, le pavillon, qui sont à la fois les symboles de la transformation des modes de vie qu'on connaît dans les Trente Glorieuses et dont on traite dans l'ouvrage Nos lieux communs. Tous ces lieux, toute l'histoire de ces lieux est évoquée. Et puis un autre lieu assez emblématique, c'est le quartier d'affaires. Et donc notamment la Défense, ce quartier d'affaires créé dans les années 60-70, qui était l'emblème de la modernisation, de l'économie française, la société des services, avec ses tours, cette nouvelle architecture moderne. qui se caractérise aussi par une certaine monofonctionnalité. Donc, on construisait en série du bureau et on se retrouve aujourd'hui, en fait, dans une situation où le quartier est en crise. Donc, il y a un tiers des tours qui ont été construites qui sont considérées comme obsolètes, qui ne trouvent pas de locataires et on est presque, en fait, face à une forme de tertiaire dont on hérite et dont il faut bien aujourd'hui essayer de penser le futur.
Merci beaucoup Martine Drozze, géographe et urbaniste chercheuse associée au laboratoire Technique, Territoire et Société. Je rappelle que vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain » chez Fayard. Merci également à Aloïse Guérin pour la programmation. La météo de cet après-midi, un temps plutôt ensoleillé pour la majorité du pays, ciel voilé dans les Hauts-de-France, des nuages et de la pluie en Bretagne et au Pays de la Loire. Les températures 13 minimum à Amiens, 16 maximum à Limoges et à Marseille. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. À la technique, c'était Marie-Claire Oumabadi. Merci beaucoup.